Nous voici dans la deuxième partie du magazine Okapi Service. Quelles sont les causes, les modes de traitement et les moyens de prévention de la fistule obstétricale? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec Dr Lucien Wasingia. Il est directeur des Fistula Programme. Docteur, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, M. Tati.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, axés sur la fistule obstétricale, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, envoyez vos questions et commentaires au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos suggestions dans les courriels dénommés service@radiocapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui coordonne et présente cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Grâce Vezol réalise ces numéros et Jean-Claude Siala est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. La fistule obstétricale demeure un problème de santé publique en RDC. L'incidence de la fistule reste inconnue. On estime entre 5 et 7 000 cas de fistule obstétricale par an selon les fonds des Nations Unies pour la population, INFPA en sigle. Mais dans le contexte où l'accès aux soins, où l'accès aux services des soins obstétricaux d'urgence est faible, l'incidence pourrait par conséquent être plus élevée que deux cas de fistule obstétricale pour 1000 accouchements selon nos sources. Quelles sont les causes majeures des fistules et quels sont les moyens de prévention des fistules et comment se fait la prise en charge médicale en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec Dr Lucien Wasingia. Nous rappelons qu'il est directeur des Fistula Programme. Docteur, parlez-nous un peu de ces programmes Fistula Programme.
Fistula Programme, à sigle, c'est FISPRO DRC. Donc c'est un programme... c'est une ASBL, sabie lucrative, pour aider les femmes victimes de la fistule obstétricale. Donc nous avons comme vision de restaurer la dignité de la femme qui est une survivante de la fistule obstétricale.
Et c'est depuis combien d'années que vous travaillez, l'ONG, l'ASBL existe?
L'ASBL existe depuis 2020, donc ça fait maintenant 4 ans que nous sommes en train d'aider les femmes à la République démocratique du Congo. Et notre siège est au nord Kivu, en ville de Butembo. Et nous avons une extension à Kinshasa. Et cette ONG aide les femmes qui ont eu des problèmes pendant l'accouchement. Et nous les soignons gratuitement. Et donc c'est une prise à charge globale. Donc on paye les transports, la restauration et les soins médicaux sont gratuits.
Nous allons entrer dans le vif du sujet. Docteur, parlez-nous un peu de la fistule. De quoi il s'agit?
Une fistule, par définition, c'est une communication anormale entre deux organes différents. Et dans notre contexte, c'est une communication anormale entre la vessie et la cavité vaginale. Et tout se passe pendant l'accouchement. Donc, pendant l'accouchement, quand il y a un travail d'accouchement prolongé, la tête du fœtus va comprimer les organes. Et ça va créer une ischémie, et cette ischémie va créer une nécrose cellulaire, et il y aura un trou, et les urines vont commencer à passer par la voie vaginale. Vous savez, de façon naturelle, les urines doivent passer par l'urètre, et la femme doit être en mesure de contrôler la miction. C'est elle qui doit décider si elle doit uriner ou bien
elle doit se soulager ou pas.
Elle doit se retenir. Mais pendant la fistule, elle ne saura pas se retenir. Les urines vont passer directement par les trous là, donc à travers la fistule, pour sortir par la cavité vaginale. Et il y aura une incontinence urinaire, donc elle ne saura pas retenir ses urines. Et à ce moment-là, elle sera mouillée par ses urines, et elle aura des odeurs des urines, et elle est obligée de porter des couches. Ça, c'est ce qu'on appelle une fistule vésico-vaginale. Mais on peut avoir aussi une autre fistule qu'on appelle une fistule recto-vaginale. Les matières fécales vont s'échapper à travers la fistule et vont sortir par la cavité vaginale. Elle-même, elle va vous dire, après l'accouchement, je vois les matières fécales dans ma cavité vaginale. Et à ce moment-là, on va parler d'une fistule recto-vaginale. Et ça, ce sont des problèmes qui arrivent pendant un accouchement prolongé.
Docteur, donc, à vous comprendre, il y a deux types de fistules. Et la fistule, d'abord, c'est une communication entre l'appareil génital ou l'urètre, ou entre l'urètre et l'anus, c'est ça, chez la femme.
Exact, la vessie et le rectum.
Et vous avez dit, quelles sont les causes de cette malformation, je dirais?
La cause principale, jusqu'à 90%, c'est un accouchement prolongé. Parce qu'il y a plusieurs types de fistules. Il y a les fistules que nous classifions parmi les fistules traumatiques. Donc, les fistules qui arrivent en cas de traumatisme. Par exemple, en cas d'un accident, on peut avoir une fistule. Ou en cas de viol, dans des zones à conflit, il y a des moments où les gens vont introduire les sticks de bois dans les organes génitaux.
Ou les objets tranchants.
Exact. Et puis, ils vont créer la fistule. Mais ça, ce sont des fistules qu'on appelle des fistules traumatiques, qui sont estimées à moins de 1%. Mais en plus de 90%, ce sont des fistules causées par un accouchement prolongé ou un accouchement mal dirigé. Ça peut arriver même pendant une césarienne ou une intervention chirurgicale comme une hystérectomie ou autre. Et le médecin peut léser la vessie et après il y aura l'écoulement des urines, une incontinence urinaire. Et ça, c'est une fistule iatrogénique, donc causée par le personnel soignant.
Et la fistule, généralement, les femmes constatent cette infirmité à quel stade? C'est juste après l'accouchement ou c'est au bout de 3 mois ou de 6 mois que l'on peut constater cette infirmité?
En tout cas, ça ne traîne pas. Donc, juste la toute première semaine, même un jour ou deux jours ou le même jour, la femme va constater qu'elle n'est pas en train de contrôler ses urines. Elle va se sentir mouillée par ses urines. Elle va constater que vraiment, je n'arrive pas à contrôler les urines. Et la plupart des femmes se réservent parce que, vous savez, quand vous mouillez votre lit, vous gardez ça en secret d'abord. Et puis après, ça crée des conflits graves. Donc, il y a des conflits conjugaux, il y a au niveau de la famille. Et notre communauté passe plus à la sorcellerie. C'est ça maintenant le comble. Donc, la femme sera rejetée, stigmatisée. Et on va l'accuser même qu'elle doit subir ça. Peut-être elle a fait l'adultère ou elle a fait une faute et doit subir la punition des ancêtres. Donc, les gens passent plus à la sorcellerie. Et pourtant, c'est une maladie.
C'est une maladie que l'on peut réparer.
On peut réparer gratuitement encore.
Et dites-nous, c'est depuis 4 ans que vous travaillez sur terrain. Combien de femmes ont pu bénéficier de vos services, docteur?
Et jusqu'à présent, nous avons aidé 810 femmes. Et à plus de 92%, elles sont parties guéries. Et le reste de pourcentage, ceux qui ne sont pas guéris, sont les femmes chez qui on a amélioré la condition de vie. Parce qu'il y a d'autres qui vont vous dire que je peux changer seulement une garniture une fois la journée. Et pourtant, en bas, il fallait changer chaque 1 heure. Et elle-même, elle va te dire qu'elle est guérie, mais en réalité, elle a encore une incontinence. Donc, jusqu'à 92% des réussites. Et on est satisfait, c'est un résultat très satisfaisant. Parce qu'au niveau international, les taux de réussite varient toujours entre 80 et 94%.
Docteur Lucien Wasingia, dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc, nous allons partir au standard afin de donner la parole à la première vague des auditeurs. Quelles sont les causes, les modes de traitement et les moyens de prévention de la fistule obstétricale? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Le premier auditeur, il intervient depuis la ville de Kananga, il s'appelle Liévin. Liévin, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs.
Bienvenue dans Okapi Service, on vous donne la parole.
Ok, merci. J'ai une question à poser à votre invité. Docteur, il dit que la fistule est un canal artificiel qui communique avec une glande ou une cavité naturelle et qui donne passage au liquide physiologique ou pathologique qu'elle sécrète. Alors, ma question, mon intervention, qu'est-ce qu'il faut pour une prise en charge correcte de ces cas? Et puis, la deuxième question, qu'est-ce que le gouvernement envisage pour la prise en charge correcte de la fistule en RDC? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, ingénieur Liévin. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kananga que vous intervenez.
Depuis la province du Kasaï Oriental.
Dans quelle ville exactement?
Depuis
Mbujimayi. Oui. Excellente journée à Mbujimayi. Docteur aura le temps de répondre à ta préoccupation. Cette fois-ci, allons dans la ville de Goma, au Nord Kivu, pour donner la parole à docteur Michael Bolingo. Bonjour. Malheureusement, la liaison n'a pas marché avec la ville de Goma. On tâchera de rappeler docteur Bolingo. Cette fois-ci, nous donnons la parole à monsieur Eminent Mwanda. Vous êtes à Bukavu, au Sud Kivu. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour à tout le monde et merci beaucoup de m'avoir associé une fois de plus dans cette émission. Mmh. Vraiment, ma première question est de savoir est-ce que à la phase où la maladie se trouve, parce que selon la thématique, nous avions bien dit qu'il y a déjà deux femmes sur une femme accouchée qui sont atteintes de cette maladie. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, comme la maladie est encore dans la phase embryonnaire, de créer dans chaque structure sanitaire une équipe qui va se charger de riposte contre cette maladie. Et même lors de cette année, quand les femmes iront faire leur consultation prénatale postnatale, de les sensibiliser davantage sur cette maladie, ou sinon ça va encore créer de sérieux problèmes dans la vie conjugale. Maintenant, mon intervention, ça c'est ma suggestion, ma contribution à ce niveau du débat. Je voulais à que l'invité puisse au moins éclaircir la lanterne publique sur le mode de prévention de cette maladie, et sinon, parce que et quels sont les signes cliniques qui présentent cette maladie avant qu'elle se manifeste comme maladie. Parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas informées. Mmh. Et la femme là peut souffrir d'une maladie ou d'une autre, mais ça ne change pas ce que c'est la maladie qu'elle est en train de traverser. Et surtout dans nos communautés, surtout archaïques, ici à RDC, si une femme même sans le mot de ventre peut seulement croire que ça va être telle et telle autre chose. Et c'est pour cela que l'inclusivité peut nous aider, parce que c'est une opportunité, c'est une occasion, de nous donner des signes et des symptômes que peut présenter cette maladie avant qu'elle atteigne la phase de maladie. Et aider, ou soit plaider au gouvernement de créer dans chaque structure sanitaire, surtout dans les lieux les plus reculés. Parce que là, par exemple, si on parle de Chabunda, une femme peut souffrir de cette maladie et ça ne sache pas que c'est la maladie en question qu'elle est en train de souffrir. On peut déjà contourner cette maladie et là, il y a vraiment les services de contrôle médical est réduit. Mmh. Et vous pouvez trouver seulement dans un centre de santé, il n'y a que le microscope. Les autres instruments là, de labo, n'hésitez pas. Alors, il se limite seulement à ce niveau là-bas. C'est pour cela que il faut élargir le niveau de sensibilisation pour que la société ne puisse pas payer cher dans les jours à venir des conséquences qui peuvent causer cette maladie.
Merci beaucoup, M. Eminent Mwanda. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu, au Sud Kivu, que vous intervenez. Le docteur a relevé, docteur Lucien a relevé le fait que nombre de femmes pensent que la fistule obstétricale est liée à un mauvais sort. Donc, voilà, il aura le temps de commenter à ta préoccupation. Excellente journée au niveau de la ville de Bukavu, au Sud Kivu. Docteur Lucien, comment répondez-vous à nos auditeurs? Commençons par ingénieur Liévin de Mbujimayi.
Merci beaucoup. Sinon, par rapport à la question de l'ingénieur Lievé, je remercie d'abord tous les auditeurs pour
l'intérêt accordé à cette émission.
Pour des questions, et puis je dois répondre pour clarifier l'opinion publique. Par rapport à la prise à charge est divisée à deux volets. Il y a le volet médical et le volet chirurgical.
Docteur, ingénieur Liévin a commencé d'abord par... Il a voulu avoir une clarification de la fistule. Comment est-ce qu'elle se manifeste?
Exactement. Les signes cliniques de la fistule, comme j'ai bien dit que la femme va se retrouver avec une incontinence urinaire. Elle ne saura pas contrôler ses urines juste après l'accouchement. Elle va constater qu'elle est en train de mouiller ses habits, elle est en train de mouiller son lit. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre diagnostic. C'est une incontinence urinaire. Et là, vous passez directement à une fistule vésico-vaginale. Et après, la femme va vous dire, non, moi, je suis en train de voir des matières fécales dans ma cavité vaginale. Là, vous passez directement à une fistule recto-vaginale. Et puis, il peut y arriver aussi d'autres lésions qu'on appelle les déchirures du périnée. Elle va vous dire que je ne suis pas en mesure de retenir les gaz. Ou je me sens ouverte. Ou je me sens comme si l'air entrait dans l'anus ou dans la cavité vaginale. Et à ce moment-là, vous allez constater qu'il y a déjà une déchirure du périnée.
Donc, il y a trois types de fistules, docteur.
Bon, le fistule, il y en a plusieurs types, mais nous on va se limiter aux fistules
à ces trois catégories qui
sont causées par l'accouchement.
D'accord.
Oui, raison pour laquelle on s'appelle les fistules obstétricales. Donc c'est lié à l'accouchement, mais il y a plusieurs types de fistules.
Je comprends.
Exact. Alors c'est un peu ça la manifestation clinique pour la fistule. Maintenant la prise en charge, nous avons deux volets, le volet médical et le volet chirurgical. Mais à plus de 90%,
Il faut passer par l'intervention chirurgicale.
Parce que pour des petites fistules, par exemple, si vous placez juste après l'accouchement, vous constatez que la femme est mouillée. Vous placez une sonde vésicale. Et cette sonde vésicale, vous la gardez pendant 14 jours. Et la femme peut avoir la chance de guérir sans aucun traitement, sans aucune chirurgie. Et là, c'est
juste après l'accouchement.
Après l'accouchement, vous placez une sonde vésicale et ça entre toujours dans le cadre de la prévention.
Prévention-réparation.
Exact. Mmh. Parce que normalement, il y a un protocole que nous sommes en train de demander avec la Fédération internationale des gynéco-obstétriques FIGO, parce que je suis aussi membre de FIGO. Parce que d'ici là, dans toutes les maternités, on va sensibiliser les gens que s'il y a un travail d'accouchement prolongé, placez directement une sonde vésicale pour prévenir
après l'accouchement.
Exact. Il y a déjà des recherches que nous avons publiées qui ont montré que ça donne de bons résultats. Donc, si vous mettez une sonde juste après un travail d'accouchement difficile ou prolongé, vous pouvez
épargner la femme à cette infirmité.
La fistule. Et il y a d'autres femmes qui ont ce que nous appelons une insuffisance urétrale, qui va causer aussi une incontinence après juste un accouchement très difficile. Alors, il y a des produits, des comprimés que nous donnons à ces femmes pour renforcer les muscles au niveau de l'urètre. Et quand elle termine sa cure, et puis à la fin, elle peut
reprendre la vie normale.
Reprendre sans intervention. Et à part le volet médical, il y a maintenant le volet chirurgical. Là, c'est maintenant plus de 90% des cas où il faut toujours passer par une intervention pour aller fermer les trous là. Une fistule, c'est un trou entre la vessie et la cavité vaginale. Donc, il faut aller fermer ces trous et on parle de la réparation de la fistule.
Merci beaucoup pour ce détail, docteur. Et comment répondez-vous à Éminent Mwanda de Bukavu qui a parlé du cas de Walungu, qu'il faut sensibiliser les communautés locales parce que nombreuses ne sont pas au courant de cette handicap, de cette maladie. Et puis, il a dit dans les hôpitaux, par exemple, de Walungu, les appareils pour soigner les patients font défaut. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Et actuellement, nous travaillons en collaboration avec le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé, parce que nous travaillons avec le PENSER, le Programme National de la Santé de la Reproduction, où nous sommes partie de l'équipe de pilotage pour la prise en charge des fistules au niveau national. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de sensibiliser, parce qu'on est en train d'organiser maintenant des formations pour former les sages-femmes, former les
accoucheurs, les gynécos.
Et former aussi les médecins pour prévenir la fistule obstétricale. Donc, nous sommes en train de faire la prévention dans le cadre de la formation. Et aussi, nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation et aussi pour prévenir toujours la fistule obstétricale.
Docteur Lucien, nous allons retourner au standard, donner la parole à Maître Odia Patrick. Il intervient depuis la ville de Lubumbashi. Maître Patrick, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati Mapoukou et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Nous vous donnons la parole. Allez-y.
J'avoue que je suis juriste et je ne maîtrise pas du tout les domaines, surtout, mais quand même en parlant avec ma chérie, j'ai eu quand même à comprendre le système et aussi quelques inquiétudes de sa part. Elle m'a demandé de pouvoir demander à docteur ou spécialiste également.
D'accord.
Et la première question, par exemple, c'est en ce qui concerne la fistule
obstétricale.
Est-ce que y a-t-il un moyen de communication peut-être centré, approprié dans les milieux ruraux, par exemple? Parce qu'en parlant avec elle, elle me fait voir que ça se passe beaucoup plus dans les milieux ruraux, et ça a des conséquences dans les milieux ruraux, d'autant plus qu'il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de chevronné du domaine d'accouchement, et du coup, beaucoup de femmes, permettez-moi, villageoises, ou c'est pas moi dans nos villages, moi je suis villageois, des milieux ruraux, si je peux les dire ainsi, sont beaucoup plus confrontés à ces systèmes. Est-ce qu'il y a-t-il un peu de formation, des programmes, des sensibilisations beaucoup plus centrés ou calqués dans le milieu ruraux? Ça, c'est la première question. Deuxième question également, est-ce qu'il y a-t-il, du point de vue traditionnel, est-ce que peut-on arriver à mettre état de nuire cette maladie, sur le plan, au-delà du plan médical, est-ce que sur le plan traditionnel? Parce qu'elle me fait voir également qu'il y a certaines femmes qui auraient cru en des choses traditionnelles telles que non, ça peut aider, ça peut faire ceci, calmer. Est-ce que l'invité en tant qu'expert, en tant que médecin chevronné du domaine, a-t-il une expérience du point de vue prévention, prise en charge du point de vue traditionnel?
Est-ce que d'accord. Maître Odia, là vous faites allusion par exemple aux suppositoires, à certains suppositoires dans la phytothérapie, c'est ça?
Certainement. Vous allez m'excuser, je ne suis pas tellement du domaine avec les termes.
Je comprends. Je comprends.
Des trois également. Troisième question, je pense. Est-ce que, dans la mesure où ma chérie m'a expliqué cette question, je comprends également que cette question peut être à la base de beaucoup d'infidélité dans le foyer, par exemple, parce qu'elle me fait voir que lorsque cette maladie est là, la femme peut également dégager une certaine... voyez-vous, hein, une certaine odeur insupportable, que l'homme puisse être un peu proche de la femme du point de vue sexuel et rapport sexuel. Et cela permet à l'homme de pouvoir prendre des distances, et si souvent, s'il a des besoins, il peut aller en dehors. Comment pouvons-nous concilier entre part l'infidélité de cet homme qui, d'une part également, sa femme souffrait de cette maladie? Ne voyez-vous pas que l'État congolais a également une responsabilité? Si pas l'État congolais, parce que je peux parler également, il y a une journée mondiale de lutte contre cette maladie. Je pense que le 23 mai. Est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes concrets allant dans le sens de sensibiliser les époux pour les faire comprendre également que oui, c'est une maladie comme tant d'autres, mais il ne faudrait pas peut-être aller découcher et faire ceci. Il y en a d'autres même qui décident de briser leur foyer parce que la femme souffrait de cette maladie. Voilà un peu quelques questions que je voudrais poser à l'expert pour m'aider à comprendre également cette maladie, et aussi s'il peut nous dire concrètement des mesures urgentes que nous pouvons prendre, et des mesures à long terme également dans la lutte de cette maladie également. Surtout, est-ce que l'État a-t-il mis des moyens pour prouver éradiquer cette maladie? Parce que selon les statistiques, 500 à 900 000 femmes meurent par jour. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Alors que l'État congolais a des moyens, il y a des gens qui détournent les 100 millions, les 20 millions régulièrement. Mais quand même, il y a nos mamans qui accouchent dans les milliers rigots, mais qui ont besoin juste d'un petit 1000 dollars, d'un petit 500 dollars. Et du coup, elle va mourir parce que ceci n'a pas été pris en charge et vous n'avez pas des moyens également. Est-ce que l'État congolais a mis un peu au travers le ministère de la Santé un budget maximum pour permettre à la lutte de cette maladie également? Voilà un peu quelques questions que je voudrais poser. Maître Patrick Odia, je rappelle, depuis Lubumbashi.
Merci beaucoup, Maître Patrick. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez et vous avez évoqué, fait allusion aux conséquences sociales, surtout dans la vie conjugale, qu'entraîne la fistule obstétricale. Peter Maboudi, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous donne la parole, allez-y.
Oui, merci pour m'avoir associé à cet échange. Je crois, j'ai bien suivi l'invité ainsi que mon professeur Patrick. C'est vraiment une question qui est intime, liée à l'intimité d'une femme.
De la femme, oui.
De la femme, et surtout que dans les milieux ruraux, tout comme urbains, il y a vraiment des catégories de dents par rapport à leur comportement. Et également, selon ce que Maître Patrick venait d'énumérer et puis le questionnaire posé, nous nous posons souvent beaucoup plus, il y a un problème d'estime de soi d'abord dans les femmes qui souffrent de cette pathologie. Pour qu'elle arrive elle-même à exprimer devant le corps médical, elle voit comme c'est un sujet tabou, alors que c'est un sujet qui devrait faire objet d'échange entre le corps soignant ainsi que la victime ou la femme qui est victime de cette pathologie. La question que je voudrais poser à l'invité, est-ce qu'il y a des mécanismes de communication entre les structures habilitées et également les dames en question, de fois lors des consultations prénatales, avant même, pour les jeunes, ça c'est pour les femmes qui sont mariées, mais pour les jeunes filles qui en souffrent, qui n'ont pas encore mené une vie commune dans des familles et consorts, est-ce qu'il y a des mécanismes de communication? Parce que cette pathologie n'est pas beaucoup plus connue par les jeunes filles et comment elles doivent être
préparées à avoir l'information.
Avant même avoir l'information. Et la deuxième optique que je voudrais aborder, c'est en termes de la prise en charge, comme Maître Patrick l'a dit. Nous avons beaucoup constaté que plus ce sont des structures des zones GD qui s'occupent de ce genre de pathologies en finançant, en soutenant un centre de santé où toutes les femmes doivent être prises en charge par une structure, alors que l'État congolais ne s'assume pas déjà de ce genre de situation. Est-ce que vraiment il y a une garantie que l'État a mis en place justement pour prendre en charge toutes les mamans qui souffrent de cette pathologie qui est liée à leur intimité? Et également, Maître Patrick a posé la question plus surtout sur le couple, pour les mamans qui sont dans la vie de couple. Parce que je n'ai pas bien suivi l'origine. Est-ce que cela peut surgir? C'est une maladie héréditaire ou naturelle, ou soit on peut la développer lorsque la femme est en train d'évoluer ici, tout par rapport aux conditions hygiéniques de son milieu d'habitation et de sa prise en charge individuellement. Est-ce que c'est une pathologie qui est la prise en charge d'une femme elle-même, ou bien elle est cette pathologie est héréditaire? C'est ça la deuxième question que je voudrais poser à l'invité.
Merci beaucoup, Monsieur Peter Maboudi. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. La fistule obstétricale, c'est une infirmité qui survient lors de, d'un travail prolongé d'accouchement. L'a précisé Docteur Lucien. Il aura le temps de commenter et de répondre à tes deux questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous au Capi Service. Justin Kalabia, vous êtes à Bounia. On vous donne la parole. Bonjour et bienvenue dans au Capi Service.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour aussi à notre invité, à nos auditeurs qui suivent la radio.
Nous vous écoutons, allez-y.
Oui Monsieur Tati, moi je pense que au Congo, la population en tout cas en soi, vit comme des... Donc on n'a pas une espérance de vie, donc nous vivons comme des animaux, permettez-moi en tout cas ce terme. Pourquoi je le dis? Parce que... Les gouvernants ne s'occupent pas de la vie de nos populations.
En tout cas, Justin Kalabia, s'il vous plaît, allez droit au but. Nous parlons de la fistule obstétricale. Quelles sont les questions précises que vous avez à poser?
C'est là où j'aimerais atterrir.
Allez droit au but, on va gagner le temps. Il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Oui, la question est celle de savoir. Oui, dans ce pays, moi je pense qu'il n'y a pas, comme vous avez la statistique en tout cas, il y a un grand nombre avec les femmes qui meurent avec cette maladie. Maintenant, la question est celle de savoir, en tout cas, poser à notre cher invité, et si le gouvernement congolais, jusque-là, il n'a jamais amené une campagne de sensibilisation, tout comme de financer cette maladie. Maintenant, que pense ce gouvernement, en tout cas, en tout cas, d'éradiquer, est-ce que cette maladie peut être éradiquée, ou c'est une maladie lorsque une fois être attaquée par cette maladie, en tout cas, c'est une maladie mortelle.
Monsieur Justin, vous êtes en ligne? Malheureusement, on est déconnecté avec Justin qui intervenait depuis la ville de Bounia. Nous retournons à Kinshasa pour donner la parole à Roger Marcel qui est à Kinshasa. Roger Marcel, bonjour.
Bonjour Monsieur Tassier, bonjour à notre invité, bonjour à tous les amis qui viennent de la radio de la.
Nous vous donnons la parole, allez-y, on vous écoute.
Merci beaucoup pour la thématique du jour. Monsieur Tassier, vous savez que la maladie des fistules, c'est une maladie vraiment qui est dangereuse. Si vous constatez vraiment dans notre pays, c'est une maladie qui est parée aussi des maladies négligées. si vous regardez aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, pour avoir quand même la prise en charge, pose vraiment un grand problème. Vous verrez quand même à Kinshasa, il y a quand même des hôpitaux quand même comptés qui sont concernés pour cette maladie-là. Je me demande quand même, le cas que vous voulez, ne se donne pas ou bien ça se dit à quoi? Parce que si vous regardez, il y a encore une sorte de maladie qu'on appelle vitiligo. C'est une maladie qui avance aussi, mais si vous regardez aussi la prise en charge aussi, la prise en charge peut venir sans problème. Ce sont parmi aussi les maladies que l'État congolais pouvait quand même se donner à travers le ministère de la Santé. On pouvait quand même prolonger ou bien avoir autant de médecins, autant des hôpitaux par rapport à ce que nos mamans vivent. Vous voyez un peu, quand vous avez une femme qui a cette maladie, pour rester même là où il y a des gens, c'est tout un grand problème. Et ça va quand même gêner. Il faut quand même avoir une prise en charge vraiment qui est vraiment comptable pour que la femme aussi puisse se retrouver, pour que la femme puisse se voir quand même tenir aussi. Parce que si vous regardez aujourd'hui, il y a un jour à des femmes au niveau des collègues, pour voir un peu une personne qui souffre un peu de cette maladie-là. Vous-même, vous voyez que c'était vraiment gêné. Mais quand vous avez quand même notre État congolais qui ne compte pas, qui a plus de charges qui compte un cas problème, vous verrez que dans plusieurs cas, ce cas-là pourrait au moins évoluer en presque dans tous les pays. Et peut-être qu'il pourrait encore poser des cas pour la prise en charge.
Merci, merci beaucoup, M. Roger Marcel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Docteur Lucien, comment répondez-vous à nos auditeurs?
Merci, merci beaucoup à tous les auditeurs de Radio Okapi et merci pour les différentes interventions. Je suis très ravi que c'est un sujet qui intéresse toute la population. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est là pour sensibiliser la communauté et nous devons vraiment répondre à toutes les préoccupations. Alors, ça c'est une maladie, c'est déjà un problème de santé publique. Parce que bon, les gens n'ont pas cette formation, mais au moins les Nations Unies ont décrété la date du 23 mai comme la date de lutte contre la fistule obstétricale.
Maître Lucien l'a rappelé d'ailleurs.
Exact.
Dans sa déclaration.
Alors, nous tous, nous devons travailler ensemble, donc avec toute la communauté, pour prévenir cette maladie. Parce que l'unique moyen d'éradiquer la fistule, c'est de faire la prévention. Parce qu'on dit souvent que au lieu de récupérer les gens qui sont en train de se noyer, il faut aller prévenir que ces gens ne sautent pas dans la rivière.
Voilà.
Alors nous devons déjà agir en amont pour prévenir la fistule obstétricale. Et à part l'impact sanitaire de cette maladie, il y a aussi l'impact social. Donc cette maladie cause les divorces. L'étude que nous allons bientôt publier montre qu'à 80% des femmes que nous soignons ont perdu leur bébé parce que c'était un accouchement difficile, un travail d'accouchement qui a fait même 2 jours. Et le bébé est décédé pendant le processus et la femme a été victime
avec la maladie
de la fistule. Et cette femme sera rejetée d'abord par le mari parce que déjà en arrivant à la maison, un lit mouillé avec des odeurs, des urines, le mari va soupçonner quelque chose. Il ne va pas comprendre que la femme est malade, mais il va dire non. Ça, c'est un signe. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es la faim et puis après, tu es aussi mouillé et puis tu as aussi tes fétiches avec des odeurs. Donc, il y aura d'abord un problème social. C'est le mari qui va d'abord trahir sa femme devant sa famille.
Ouais. Alors que la femme est doublement affectée.
Exact.
Par le décès de l'enfant, du bébé et puis par la maladie.
Et cette femme, avant, on disait victime de la fistule, mais on a compris qu'elle n'est pas victime. Elle est survivante de la fistule. Parce que ça, c'est une femme qui a survécu la mort. En RDC, on a publié une étude récemment. Pour les 1000 accouchements que nous avons, 2 femmes ont une fistule obstétricale. Et chaque année, nous avons entre 5000 et 7000 nouveaux cas. Et il y a plusieurs rapports de l'UNFPA qui montrent qu'il y a au moins 50 000 cas non traités en RDC. Et les gens ne s'intéressent pas à ça. Et dans nos hôpitaux, on n'arrive pas à soigner. Et raison pour laquelle nous nous sommes donné cette mission de former le personnel et de soigner ces femmes gratuitement. Et à part les conséquences sociales, cette maladie, on l'appelle une maladie de la honte. La femme elle-même, elle aura honte de sa maladie. Elle va se cacher dans la communauté. Et elle aura des problèmes psychologiques. Et peut développer même une dépression. Alors ça c'est une femme qu'il faut aider pour qu'elle ne puisse pas arriver à ce niveau. Parce qu'il y a plusieurs facteurs favorisants. Par exemple, la pauvreté, l'inaccessibilité aux soins obstétricaux de qualité. Et aussi, l'inaccessibilité peut être liée aux routes. Donc, quand les routes ne sont pas praticables et autres. Et les moyens financiers. Quelqu'un qui a évoqué la part du gouvernement, moi je félicite le gouvernement à nous amener le programme de la maternité gratuite, parce que ça va prévenir la fistule. Mmh. Et aussi il y a le programme là de la couverture santé universelle. Au moins le gouvernement est en train de montrer la bonne foi, et puis il faut toujours commencer quelque part.
Exactement.
Le début est toujours difficile. Et les gens ne doivent pas directement s'attaquer. Ils doivent soutenir ce genre de projet.
Initiative, oui.
Moi, je vois du côté positif. Mm. Et je trouve qu'il y a l'espoir de prévenir la fistule à travers les actions du gouvernement. Donc, il y a au moins quelque chose sur terrain. Nous sommes dans la communauté. Nous sommes en train de comprendre les enjeux actuels de la santé. Et les gens ne doivent pas se décourager. Ils doivent fournir l'effort. Et nous devons prévenir ensemble cette maladie. Alors, nos équipes font des descentes sur terrain dans les églises, dans les médias, dans les centres de santé, pendant les CPS, oui, pour que tout le monde soit au courant et pour que tout le monde soit en mesure de prévenir. Parce qu'on ne va pas rester en train de soigner sans faire la prévention. Et l'action principale chez nous, qui nous prend beaucoup de temps, plus de 70% de nos tâches, nous faisons des descentes sur terrain pour sensibiliser. Donc c'est comme ça que nous faisons la sensibilisation. Alors je crois de façon ramassée que j'ai répondu à tous les auditeurs, à moins qu'il y ait une question restée.
Qui vous a échappé concernant la question de Maître Patrick Odia de Lumbashi, qui a voulu savoir des pratiques traditionnelles pour soigner la fistule. Est-ce qu'il en existe? Est-ce que vous en connaissez?
Pour le moment.
Parce qu'en milieu reculé, ils n'ont pas d'hôpitaux équipés, ils n'ont pas des médecins suffisamment formés pour soigner, alors les gens recourent à la phytothérapie. Est-ce que vous en savez quelque chose?
Pour le moment, je veux vous dire que l'unique traitement, c'est le traitement médical et chirurgical. Donc, la médecine traditionnelle, pour l'instant, n'a pas montré vraiment les résultats
concernant
pour
la
soigner la fistule. Parce que c'est un trou. Les produits ne peuvent pas coller ces trous. Il faut le fil pour
raccommoder
pour
et réparer.
Raison pour laquelle on parle de la réparation de la fistule. Et des fois, on nous appelle des réparateurs de femmes. Vous avez déjà lu un livre qui parle des réparateurs de femmes.
Exactement.
Donc, on fait la réparation. Alors, c'est difficile avec la médecine traditionnelle d'aller utiliser le fil de suture pour fermer les trous. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de données qui montrent l'efficacité de la médecine traditionnelle pour la prise en charge de fistules obstétricales.
Docteur, nous allons cette fois-ci à Bounia pour donner la parole à Monsieur Christian Ikanga qui est dans la phytothérapie dans la médecine traditionnelle. Monsieur Christian, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Monsieur Christian, vous êtes en ligne? Malheureusement, docteur Christian, il est loin de son téléphone. Et dites-nous, comment est-ce que Fistula Programme, docteur, travaille dans le cadre des actions que vous réalisez, que vous menez sur terrain?
Dans le cadre des actions, tout commence par la sensibilisation. Donc, nous faisons d'abord la sensibilisation. Mmh. Et après la sensibilisation, quand les malades arrivent au site, on fait ce qu'on appelle le triage, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas la fistule, mais qui ont des signes qui ressembleraient à une incontinence urinaire. Ça, ce sont des malades qu'on soigne aussi, toujours dans le cadre du projet, parce qu'il y a d'autres qui ont des infections urinaires qui vont causer des incontinences urinaires qu'on appelle incontinence d'urgence ou de fort. Et là, on les aide aussi dans ce cadre-là. Mais après le triage, on est fixé par rapport à l'intervention. On dit celle-ci doit être opérée. On doit l'envoyer chez les anesthésistes pour faire la consultation pré-anesthésique.
Docteur, nous allons revenir à vous. Le temps qu'on donne la parole à un auditeur, il s'appelle Charles. Charles, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Charles Kisimba, vous êtes en ligne? Vous sortez entrecoupé, déplacez-vous de là où vous êtes. Malheureusement, la réalisation va vous rappeler, hein. Donc, parce que la liaison n'est pas bonne, on ne vous capte pas trop bien, donc on va vous relancer. Docteur, vous êtes en train de parler de la manière dont vous travaillez dans programme Fistula. Allez-y.
Exactement. Donc après les triages, les anesthésistes doivent évaluer la femme pour qu'elle soit opérée dans de bonnes conditions pour voir si est-ce qu'il n'y a pas de facteurs de risque qui peuvent interférer avec l'intervention. Et puis après, on programme l'intervention. Et l'intervention dure entre 45 minutes et une heure du temps. Et c'est une intervention qui se passe, on collabore avec la patiente pendant l'intervention. C'est sous anesthésie loco-régionale, donc rachi-anesthésie. Mmh. Et il n'y a pas assez de risques, pas de risques de saignement et autres, que les gens n'aient pas peur de cette intervention. Et le lendemain, la femme doit rester à l'hôpital pendant au moins 14 jours.
Deux semaines après l'intervention.
Exact, parce qu'on doit laisser une sonde urinaire qu'on doit surveiller à l'hôpital. Et pendant ce séjour, on commence directement la réinsertion sociale. C'est une réinsertion qu'on dit psychosocio-économique. On doit d'abord encourager la femme parce qu'elle a été traumatisée, stigmatisée, rejetée. Et puis après, on doit l'apprendre à se réinsérer dans la communauté en apprenant des petits métiers.
Lesquels, par exemple?
Des tissages de paniers. Et on est en train d'introduire maintenant les bracelets à perles avec des sacs à perles, des sandales à perles. Et à la sortie, elle peut continuer cette activité à la maison et puis elle sera indépendante. Parce qu'on s'est dit que parmi les facteurs de risque, il y a aussi la pauvreté.
La vulnérabilité économique de certaines femmes.
Et à la sortie, elle peut être indépendante, elle peut vendre ses petits trucs qu'on va la prendre pendant ce séjour. Et c'est un peu ça la globalité de notre programme, parce que on prend en charge la femme en entièreté. Donc du côté médical et du côté psychosocio-économique.
Et donc à l'instant, vous n'opérez qu'à Beni, au Nord Kivu, puis à Kinshasa. S'il y a des patients, par exemple, qui sont en Mandaka, qui veulent bénéficier des soins auprès du programme Fistula, est-ce qu'il y a des mécanismes? Vous travaillez également dans ce sens-là?
Exactement. Notre partenaire, la Fondation Fistula Internationale, a initié un réseau qu'on appelle le Fistula Treatment Network. C'est un réseau qui fonctionne déjà en RDC. Donc, dans toutes les provinces, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la cartographie pour implanter des centres de réparation dans toutes les provinces. Et nous sommes en train d'assister les jeunes centres pour s'intégrer, parce que c'est moi qui est en train de les aider pour faire les différentes formations. Récemment, j'ai été dans le Haut-Ouélé, à Durba, où je fais deux semaines et puis
des formations.
Et des formations. Et puis, on a opéré
une intervention
une
également.
Vingtaine de femmes.
Très intéressant.
Exact. Ouais. Et puis, d'ici là, je vais aller aussi à Lubumbashi pour faire la même chose. Donc, après, ça sera dans les Chopa, Chopo. Donc, nous sommes en train de
déployer
un réseau qu'on appelle Fistula Treatment Network. Et nous sommes en train de former les médecins localement. Donc, nous allons faire seulement quelques navettes et puis après, on va
vous
laisser
les compétences. Ils vont travailler localement.
Exact.
Oui, mais dites-nous, docteur, comment est-ce que les gens ou les femmes qui sont touchées par la fistule obstétricale peuvent entrer en contact avec vous?
Exactement, nos numéros à Kinshasa, l'adresse physique, c'est le centre médical Bolamu qui se trouve dans la commune de Mongafula. Le quartier, c'est Masangambila. Et l'arrêt, c'est l'arrêt dépôt, juste là où il y a les Kin Marché. Vous allez derrière les Kin Marché là.
Bien
vous
qu'on ne allez... fait pas la promo des Kin Marché, mais c'est la référence, la référence pour arriver à l'hôpital.
Et puis c'est l'avenue Kabasele numéro 17. Et vous pouvez nous contacter au 09 10 20 88 92. Ça c'est sont nos contacts pour la ville de Kinshasa. Et ceux qui sont à Butembo, au Nord Kivu, nous sommes dans la ville de Butembo, la commune de Wulamba. Et l'adresse est au quartier Congo Yasika, c'est l'île Kiatsinge, le numéro 5556, juste derrière le bureau de Esco Kivu. Et là, le numéro de contact, c'est 097 63 65 999. Et à part ça, nous avons aussi des centres de triage. Par exemple, à Kirumba, c'est au centre médical Nengapeta, où nous faisons d'abord les triages, parce que à Butembo, là, il y a des longues distances, on ne peut pas faire voyager une passade à 50 km, et puis après, on vient dire que non, c'est un faux cas. Alors, on est en train d'implanter des centres de triage à l'intérieur.
Pour sélectionner des cas avérés et les amener pour les interventions.
Exactement.
Oui, docteur, on retourne au standard. On me signale que Charles Kisimba de Lubumbashi, il est de nouveau en ligne. Espérons que cette fois-ci, ça va marcher. Charles Kisimba, on vous donne la parole.
Bonjour, monsieur Tassi. Bonjour aussi à l'invité.
Déplacez-vous un tout petit peu de là où vous êtes. Il y a des micro-coupures dans la communication.
Et là, ça va?
Oui, on vous reçoit. Allez-y.
Oui, mais
malheureusement, est-ce que vous avez activé le haut-parleur de votre téléphone? Malheureusement, la liaison n'est pas bonne avec Lubumbashi. Veuillez nous excuser, donc on vous donnera la parole à la prochaine occasion. Docteur Lucien, et les interventions se font périodiquement ou c'est lorsque vous recevez des cas et automatiquement vous soignez le patient, vous attendez un autre patient pour procéder aux interventions?
Actuellement, nous procédons par mode routine. Donc, chaque semaine, nous avons des interventions. Donc, les malades qui arrivent au centre doivent suivre le processus normal pour être programmés pour une intervention. Et chaque semaine, on fait des interventions. Donc, quand les malades arrivent, on les soigne. On ne fait plus de campagne parce qu'on a compris que c'est une urgence. Mmh. Parce qu'avant, on faisait chaque 3 mois, on faisait des campagnes. Mais on a vu qu'on ne doit pas retarder ces femmes. Dès qu'elles arrivent, elles doivent être soignées et rentrer à la maison.
Et comment ça se passe le processus lorsque la patiente arrive, les examens qui sont soumis jusqu'à l'intervention? Comment cela se déroule?
Exactement, tout commence par une consultation et puis on fait des examens de labo. Et après les examens de labo, les anesthésistes doivent évaluer la femme et puis après on programme l'intervention. Alors si tout est OK, on va l'opérer. On a toujours une journée opératoire et on peut opérer en moyenne 5 femmes par jour. Alors, après l'intervention, on doit surveiller ces femmes. Parce qu'il y a toujours ce que nous appelons les soins post-opératoires. Mmh. Et après 14 jours, on doit signer la sortie. Raison pour laquelle nous avons beaucoup de lits déjà et nous avons l'espace et nous avons une capacité d'opérer 50 femmes chaque mois. À Butembo comme à Kinshasa. Parce qu'avec nos statistiques actuelles, nous sommes à 50 femmes en moyenne chaque mois.
Et pouvez-vous nous faire une idée sur les difficultés rencontrées depuis que vous avez commencé en 2019, docteur?
La grande difficulté, c'est d'abord la sensibilisation. Parce que
les gens ne sont pas au courant
de
l'infirmité, oui.
Et les femmes se cachent dans la communauté, elles ont honte.
Ah, donc il faut aller détecter des cas dans les ménages, dans la communauté.
Exact. Mmh. Et quand on retrouve même les cas, ces femmes hésitent pour aller se faire soigner. Parce que
c'est vrai, parce que les patientes qui ont bénéficié des soins, ils hésitent pour témoigner.
Exact.
Voilà.
Parce que là, vous allez constater qu'une femme qui a fait 40 ans avec sa maladie, ça fait déjà partie de sa vie. Et elle-même, elle va te dire, parce que nous travaillons beaucoup à l'Est, où les femmes qui vont vous dire, moi, c'est la période de la récolte. Je viendrai me faire soigner.
Pendant 2 semaines?
Oui, je reviendrai après, parce que pour moi, c'est pas urgent. J'ai vécu 40 ans avec cette maladie. Et puis, pendant la récolte, vous venez me dire que vous allez m'opérer.
Je vais rester à la maison pendant 2 semaines.
Elle dit, c'est impossible. Moi, je reviendrai après, donnez-moi un mois, je vais revenir. Et moi, après, vous revenez vers elle. Elle dit, non, on doit aller maintenant.
Vendre, écouler nos produits.
Écouler nos produits et puis on doit aller préparer les champs pour la semis et pour la saison. Et ça, c'est la saison pluvieuse, je peux pas rater. Alors, on a des difficultés parce que les femmes ne sentent plus que c'est urgent
de se faire soigner.
De se faire soigner parce qu'elle dit, je veux mourir avec ça, j'ai déjà compris et puis c'est comme ça. Donc, on a des problèmes très sérieux dans le cadre de la sensibilisation.
Sensibilisation, et puis est-ce que des femmes qui sont réhabilitées, elles deviennent de plus autonomes grâce aux activités, aux formations que vous leur donnez, vous leur accordez?
Exactement, parce qu'on est en train de faire une petite étude pour montrer les résultats de cette réinsertion sociale. Certaines femmes n'ont pas acheté le matériel après. Donc elles ont vendu les produits et puis n'ont pas eu le courage d'aller acheter encore faire d'autres. Et d'autres ont pris ça comme un métier. Quand elles viennent témoigner, tu vas comprendre qu'elle est autonome. Elle va te dire que maintenant là, c'est moi qui est en train de faire étudier tel et tel et tel. Donc j'ai de moyens suffisants. Et des fois, elles reviennent avec des contributions pour dire voici les résultats de ce que vous m'avez donné. Et beaucoup de femmes reviennent comme ça pour nous remercier, nous encourager. Et puis ça donne un beau témoignage pour dire que au moins la recherche sociale a sa part.
Docteur Lucien, on est presque à la fin de ces rendez-vous au CAPI Service. Est-ce que vous avez un message particulier à l'intention des femmes qui sont victimes ou qui sont atteintes de la fistule obstétricale?
Le message est clair, c'est les soins sont gratuits. Que les gens viennent nous trouver, que ces femmes se fassent soigner pour au moins sortir de ces calvaires. Parce que elles ont vécu beaucoup d'années en train de souffrir. Elles doivent maintenant bénéficier, parce que tant qu'on a encore l'appui de la Fondation Fistule,
venez bénéficier des soins.
Les soins seront toujours gratuits. Merci.
Et comme vous intervenez à Bindi également, en Swahili, un petit message. En quelques mots, s'il vous plaît, docteur.
Accent sana, kwa population yote ya Butembo, tunawaambia Fistula Program inawaalika kwa kutuma wa mama wenye iko na shida ya kuvuja mkojo kufika kwenye Fistula Program pale Butembo. Accent.
Merci beaucoup, docteur. Nous rappelons que vous êtes directeur du programme Fistula. Merci d'avoir été avec nous dans ces magazines au CAPI Service pour débattre de ces sujets si sensibles qui concernent surtout l'intimité de la femme. Nous espérons que ce n'est pas la dernière occasion. À la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
C'est par ici qu'elle se clôture les magazines au CAPI Service que vous a présenté et coordonné Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Grâce à un Wesolo a réalisé cette émission et Jean-Claude Nsiala a été à la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous du magazine au CAPI Service. Excellente journée.